Donc je reprends, je me donne moi-même la parole, ça c'est un bon cliché des discours, donne moi-même la parole pour parler de Barthes, la bêtise et Flaubert, et on a Françoise a déjà entamé le sujet Barthes, et très bien, et je me souvenais plus de son article, elle avait fait un bel article dans le volume de Cerisy Roland Barthes, prétexte de Roland Barthes sur Barthes et la bêtise qui a peur de la bêtise. Et en présence de Barthes en plus, c'est ça qui était intéressant. Parce qu'il y avait les... Donc je commence. Flaubert, comme Sade et comme Proust, a des titres différents. Est un intertexte fondamental de Roland Barthes tout au long de son œuvre. Il y a deux Flaubert, au moins, qui s'entrecroisent chez Barthes. Le Flaubert artisan de l'écriture, Flaubert du travail de la phrase dans les manuscrits, par qui la littérature, l'écriture devient une souffrance et un absolu, la fameuse flaubertisation de l'écriture. Et puis aussi le Flaubert de l'illusion réaliste, dans Les faits de réel, l'article de 68. Et puis, il y a le Flaubert de la bêtise, celui de l'antibourgeoisisme, mais aussi celui qui problématise l'énonciation des idées reçues dans Bouvard et Pécuchet, qui perçoit la bêtise en termes de langage, comme l'a souligné Françoise. Bouvard et Pécuchet, pour Roland Barthes, est à côté de l'œuvre de Proust, un autre, je cite, mandala de la cosmogonie littéraire, qui est une présence et une référence constante dans sa pensée. Roland Barthes a donné deux séminaires sur Bouvard et Pécuchet. Claude Coste, tout à l'heure, me l'a confirmé. Un premier séminaire qui est inscrit dans les cours des œuvres complètes, le séminaire de 1970-71, qui est en lien avec le thème du sociolecte et des langages de pouvoir, avec l'oppression des discours en doxo, dont Barthes a traité pendant l'année, et puis un autre autour de 75, je crois. Flaubert et Barthes ont en commun cette hantise de la bêtise qui prend souvent le nom des idées reçues chez Flaubert, du stéréotype ou de la doxa chez Roland Barthes. Pour Flaubert, la bêtise est de l'ordre du granit. L'image type est celle du crétin qui grave son nom sur la colonne de Pompée à Alexandrie. La bêtise est quelque chose d'inébranlable, rien ne l'attaque sans se briser contre elle. Elle est de la nature du granit dur et résistante. Et dans cette lettre du 6 octobre 1850, Flaubert raconte le fait du certain Thomson qui a écrit son nom dans des lettres de 6 pieds de haut, c'est-à-dire que ça fait 1,80 m de haut. Cela se lit à un quart de lieue de distance. Il n'y a pas moyen de voir la colonne sans voir le nom de Thomson et par conséquent sans penser à Thomson. Ce crétin s'est incorporé au monument et se perpétue avec lui. Que dis-je ? Il l'écrase par la splendeur de ses lettres gigantesques. Le moins que Flaubert puisse faire est d'ériger à cette bêtise un monument sous forme d'un dictionnaire qui inclut cependant de façon cryptée la mémoire d'une génération et une mémoire autobiographique. Flaubert collectionne les sottises critiques depuis la publication de Madame Bovary, s'indigne, se moque, se désespère et la situation au temps de Bouvard et Pécuchet devient, comme l'a souligné Pierre Sange la dernière fois, le temps de la mélancolie, avec la conscience de la lourdeur du monde, de sa noirceur, qui inclut une dimension politique, celle dont on a parlé tout à l'heure, celle des idéaux reçus au pouvoir, de l'ordre moral, mais aussi la conscience de l'envahissement du journal, de la publicité, des affiches, comme il est dit au chapitre 8. Des choses insignifiantes les attristaient, les réclames des journaux, le profil d'un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard, chapitre 8 de Bouvard et Pécuchet. Mais aussi, chez Flaubert, la conscience des discours de masse, de la pensée du nombre, un monde où le sujet trouve difficilement à marquer sa différence, sa singularité, sauf dans la littérature. Donc Françoise Gaillard a marqué dans l'article dont j'ai parlé ce qui oppose et réunit Flaubert à Barthes. Pour Barthes, elle l'a dit tout à l'heure, la bêtise est du côté de l'empoissement, de la consistance, de la peur panique. La question se pose de la différence de l'intellectuel dans un monde dominé par les masses médias, la totalisation du sens. Et il faut aussi rappeler que le XXe siècle amplifie une dimension que pressent Flaubert, celle de la domination des langues de bois, avec pour fond de noirceur les totalitarismes. Mais quelle que soit la différence des contextes, Barthes et Flaubert ont en commun l'ombre d'une bêtise majuscule. Mon propos n'est cependant pas de développer un parallèle entre les deux écrivains, je m'attacherai plutôt à ce que Barthes retient de la problématique flaubertienne, de la bêtise, mais aussi de ce fait à ce que Flaubert doit à la lecture de Barthes, à ce qu'elle nous révèle de Flaubert, comme Barthes dit que dans Flaubert, ce sont les pommiers normands en fleurs que je lis à partir de Proust, je savoure le règne des formules, le renversement des origines. Mais nous nous intéresserons aussi à ce que cette lecture nous révèle du projet et du trajet barthésien. La relation flaubertienne à la bêtise est véritablement une transversale de l'œuvre de Barthes qui concerne centralement la question de l'écriture. Donc j'essaierai de voir quelques mouvements, je distinguerai quatre mouvements. Donc un premier temps sur lequel je passerai assez rapidement parce que finalement c'est le plus connu, c'est la question de la flaubertisation de l'écriture et de l'antibourgeoisisme des années 50. Donc ça fait allusion, ça fait référence plutôt à l'article « L'artisanat du style » dans le degré zéro, donc qui date de 53, et puis aux mythologies de 57. Donc dans l'artisanat du style, Barthes met en valeur le travail du style comme appropriation de la forme de Flaubert face à la crise de l'universel bourgeois, mais aussi le tragique de l'écriture lié à la lucidité par rapport à la bêtise bourgeoise. Pour Flaubert, je cite, « L'état bourgeois est un mal incurable qui poisse à l'écrivain et qu'il ne peut traiter qu'en l'assumant dans la lucidité. Cette nécessité bourgeoise qui appartient à Frédéric Moreau, à Emma Bovary, à Bouvard et Pécuchet, exige du moment qu'on la subit de face un art également porteur d'une nécessité armée d'une loi. » Je passe. Donc, ce qui est intéressant, c'est la projection d'emblée sur Flaubert d'une métaphore barthésienne, l'état bourgeois qui empoisse, hein, qui n'est pas véritablement une métaphore flaubertienne. Et le lien de la problématique éthique et esthétique de la littérature et la relation à la bêtise. À la même époque, Barthes définit aussi la cible de Flaubert comme le langage de la petite bourgeoisie, qui le spécifie, dit-il, par rapport à la description par mot passant de l'impuissance petite bourgeoise. Donc pour Barthes, la spécificité de Flaubert tient dans ce regard sur le langage. Je cite, dans certaines pages de romans, dans l'extraordinaire Bouvard et Pécuchet, dans le dictionnaire des idées reçues, Flaubert a surtout poursuivi une mise en dérision de la petite bourgeoisie. Il a reproduit, c'est-à-dire distancé et critiqué, l'aliénation statique de son langage. Mais on le remarquera, et c'est une remarque qu'avait faite Claude Duchet dans un séminaire Flaubert qui malheureusement n'a pas été enregistré et qui malheureusement n'a pas donné lieu à un texte. Une remarque que faisait Claude Duchet justement sur le regard de Barthes sur Flaubert et sur cette notion de petite bourgeoisie qu'il mettait en évidence. Et qu'ensuite Alain Buisine, je crois, a repris dans un article de romantisme sur le bourgeois. Et c'est très intéressant cette idée, qui est maintenant banale, mais qui ne l'était pas à l'époque, me semble-t-il, dans le dictionnaire des idées reçues, Flaubert cible la petite bourgeoisie, caricature la bourgeoisie en petite bourgeoisie. Et ce regard rétrospectif de Flaubert, de Barthes sur Flaubert, il le développe dans un entretien sur mythologie et la culture de masse de 71. Mon intérêt très ambivalent pour la petite bourgeoisie vient en effet de ce postulat, de cette hypothèse de travail, qu'aujourd'hui la culture n'est presque plus bourgeoise mais petite bourgeoise, ou du moins que la petite bourgeoisie essaye actuellement d'élaborer sa propre culture en dégradant la culture bourgeoise. La culture bourgeoise revient dans l'histoire mais comme farce, c'est la culture dite de masse. Ce sont des propos qui sont connus. Donc l'intérêt, ce regard, et aussi l'insistance de la bêtise comme langage, de la bêtise comme cliché, qui passe par un langage préformé, qui nous oblige à dire, hein, comme le développe Barthes dans sa leçon, et rendu sensible par la culture de masse. J'en viens aux mythologies, là je passe rapidement, parce que ce sont quand même des choses qui sont assez connues, les mythologies de 57, et je fais un peu de publicité pour la nouvelle édition illustrée de 2010 par Jacqueline Guittard, qui est magnifique, qui a retrouvé les images auxquelles Barthes fait référence dans ses mythologies. Alors, dans les entretiens sur Roland Barthes, qui ont été publiés récemment par Raphaël Antoven chez Fayard, Éric Marty et Tiphaine Samoyo soulignent, à juste titre, la relation de fascination que Barthes entretient dans les mythologies à l'égard de ces mythologies à l'égard de l'idéologie et souligne le fait que ces mythologies ne sont pas du tout uniformes dans la démystification. Et si vous les relisez, vous vous rendrez compte, effectivement, que devant certains mythes, Barthes est tout à fait fasciné. Par exemple, relisez la nouvelle Citroën. En tout cas, ces mythologies mettent en valeur quelque chose qu'il partage avec Flaubert, qui est un antipositivisme qui ne vise pas à opposer un discours de vérité à l'objet critiqué. Et il y a une présence inégale de cette cible, de cette mythologie petite bourgeoise. Par exemple, on la retrouve dans les quelques paroles de M. Poujade ou dans la tautologie Racine et Racine, avec l'épigraphe empruntée à Bovary Pécuchet, « Le goût, c'est le goût ». Plus que la bêtise, ce sont des formes de l'évidence, en parenté avec l'idée reçue. La bêtise, on la trouve notée de temps en temps, comme la stupidité, par exemple, des parents de Bichon chez les nègres. Vous vous rappelez peut-être que Bichon, c'est le petit enfant, le petit bébé blond que les parents ont emmené en Afrique chez les cannibales pour les parents ayant voulant simplement faire du dessin. Et Barthes dit « Si les dangers courus par le jeune Bichon étaient réels, il était probablement stupide de les lui imposer sous le seul prétexte d'aller faire du dessin en Afrique et pour satisfaire au panache douteux de fixer sur la toile, je cite, une débauche de soleil et de lumière. » Donc on retrouve les clichés. Il est encore plus condamnable de laisser passer cette stupidité pour une belle audace bien décorative et touchante. Dans le mythe aujourd'hui, Barthes affirme la continuité des mythologies avec la problématique du degré zéro, qui n'était à tout prendre qu'une mythologie du langage littéraire. Et dans les mythologies, Barthes s'intéresse aussi au langage. Je vous invite à relire, par exemple, La grammaire africaine, qui est un magnifique texte sur la phraséologie du discours colonialiste, ou bien L'usager de la grève, qui est un texte d'actualité sur la phraséologie du discours contre la grève. Flaubert est dans la lignée de Flaubert, donc c'est tout à fait dans la lignée de Flaubert, mythologue. Flaubert, autre chose, dans le degré zéro, Barthes relit Bouvard et Pécuchet et insiste sur la démystification de Flaubert, mythologue, dans Bouvard et Pécuchet. Et ce qui me paraît vraiment intéressant là, c'est que c'est un des premiers textes où Barthes insiste sur l'utilisation du discours indirect libre dans Bouvard et Pécuchet. Il dit « Flaubert s'est livré à une véritable restauration archéologique d'une parole mythique, c'est le Viollet-le-Duc d'une certaine idéologie bourgeoise, mais moins naïf que Viollet-le-Duc, il a disposé dans sa reconstitution des ornements supplémentaires qui la démystifient. Ces ornements sont de l'ordre subjonctif. Il y a une équivalence entre la restitution subjonctive des discours de Bouvard et Pécuchet et leur velléitarisme. » Alors, ce qu'il appelle le discours subjonctif, c'est en fait le discours direct, libre et indirect, libre. À une époque où la critique littéraire ne s'en préoccupe guère, Roland Barthes met ainsi très tôt, c'est-à-dire en 57, en relief, l'importance du style indirect libre et de l'énonciation dans la relation de Bouvard et Pécuchet au discours de savoir et au savoir comme discours. Et il met en valeur leur lien ambigu à la bourgeoisie, à la petite bourgeoisie, en écho aux mythologies. Le dictionnaire qui devait faire partie de la copie des deux bons hommes a pour cible l'opinion vers la démystification de la culture de masse. Mais surtout, le point fondamental de l'analyse que fait Barthes du roman et de la problématique de la bêtise porte sur l'énonciation de Bouvard et Pécuchet et sur la manière d'échapper à une problématique de la vérité. Dans Bouvard et Pécuchet, nul métalangage ne vient bloquer le sens, c'est le sens de l'analyse de Barthes. Et à partir de SZ, donc 1970, Bouvard et Pécuchet devient le modèle du texte pluriel. De Flaubert, Barthes hérite ainsi de la question des idées reçues, de la nécessité d'interroger nos évidences, de la syntaxe qui les formule, mais tout autant de la problématique énonciative qu'il apporte. Il faut rappeler cette phrase bien connue de Flaubert à Louis Bouillet, écrite en 1855, 2 août 1855, « La bêtise n'est pas d'un côté et l'esprit de l'autre, c'est comme le vice et la vertu, malin qui les distingue. Donc là, je passerai de cette première étape où j'ai été un petit peu rapide, mais je pense que c'est des choses qui sont assez connues, de l'étape des années 50 où Barthes est surtout sensible à l'anti-bourgeoisisme de Flaubert et à la critique mythologique de la bourgeoisie, à la période des années 70 autour de SZ, où Barthes s'empare de du modèle de Bouvard et Pécuchet pour en faire, contre le modèle balzacien, un modèle de dénonciation sans dernier mot, hein, sans une parole qui verrouille la vérité. Ce modèle du texte pluriel habite SZ comme le contrepoison et le contrepoint de Balzac face à la doxa. En contraste avec cette énonciation balzacienne des codes culturels, et de manière peut-être un peu exagérée, parce que on a pu montrer que Barthes analyse un peu rapidement certains énoncés qui sont des énoncés de personnages, qui ne sont pas forcément le point de vue du narrateur. Donc, en contraste avec l'énonciation balzacienne des codes culturels, qu'il estime un mélange écœurant d'opinions courantes, une nappe étouffante d'idées reçues, Roland Barthes souligne l'incertitude énonciative de Bouvard et Pécuchet et sa problématisation du métalangage en sursis, seul moyen, dit-il, de critiquer le stéréotype, de le vomir, sans recourir à un nouveau stéréotype, celui de l'ironie. Et il ajoute, c'est peut-être ce qu'a fait Flaubert, on le dira une fois de plus, notamment dans Bouvard et Pécuchet, où les deux copieurs de codes scolaires sont eux-mêmes représentés dans un statut incertain, l'auteur n'usant d'aucun métalangage à leur égard ou d'un métalangage en sursis. Le code culturel a en fait la même position que la bêtise. Comment épingler la bêtise sans se déclarer intelligent ? On voit très bien ici un écho de la correspondance de Flaubert que Barthes connaît très bien à travers l'anthologie de Geneviève Bollène qu'il pratique. Et il revient à plusieurs reprises sur Bouvard et Pécuchet dans les années 70. Par exemple, dans un entretien avec Maurice Nadeau de 1974, il dit à propos de Bouvard et Pécuchet, « C'est le vertige même de la copie, du fait que les langages s'imitent toujours les uns les autres, qu'il n'y a pas de fond au langage, qu'il n'y a pas de fond original spontané au langage, que l'homme est perpétuellement traversé par des codes dont il n'atteint jamais le fond. » Et dans un autre texte, « La division des langages » de 1973, qui est directement issu du séminaire de 70-71 qu'il a tenu sur le sociolecte et qu'il a tenu sur Bouvard et Pécuchet, Barthes reprend l'opposition avec Balzac pour mettre en valeur à nouveau le rôle de Bouvard et Pécuchet. Il dit « La mimésis est sans fond, sans butée, les langages culturels sont cités, l'auteur qui copie reste en quelque sorte irrepérable, dans la mesure où Flaubert ne donne jamais à lire d'une façon certaine, s'il se rend lui-même définitivement extérieur au discours qu'il emprunte. Situation ambiguë, qui rend un peu illusoire l'analyse sartrienne ou marxiste de la bourgeoisie de Flaubert, car si Flaubert bourgeois parle le langage de la bourgeoisie, on ne sait jamais à partir de quel lieu cette énonciation s'opère, un lieu critique, distant, empoissé. À la vérité, le langage de Flaubert est utopique, c'est ce qui en fait la modernité. » Vous voyez la façon dont il revient, il ressasse ce discours sur Bouvard et Pécuchet, c'est tout à fait marquant. Et il en vient à dire que finalement, l'intérêt dans Bouvard, ce n'est pas la bêtise, mais le dictionnaire, le genre du dictionnaire, le dictionnaire des langages. Il dit, au fond, le livre chéri de Flaubert, ce n'est pas le roman, c'est le dictionnaire. Et ce qui est important dans le titre « Dictionnaire des idées reçues », ce n'est pas « idées reçues » mais « dictionnaire ». C'est en cela que le thème de la bêtise est un peu un leurre. Le grand livre implicite de Flaubert, c'est le dictionnaire phraséologique, le dictionnaire des phrases, comme on trouve par exemple dans les articles du Littré. Et on voit bien le lien avec Flaubert et puis ses romanciers, Pinget, Nathalie Sarraute. C'est le lien à l'idée reçue comme phraséologie qui vous vient Et le lien avec les mythologies, c'est aussi ce lien avec la phraséologie qu'il relève. Et cette fascination pour le dictionnaire, on la retrouve dans le séminaire que j'ai édité, qui précède le Roland Barthes par Roland Barthes, où Barthes réfléchit véritablement sur la forme du dictionnaire comme forme du livre, et qui est une des formes, une des matrices du Roland Barthes. Alors, j'en viens à un troisième moment, au troisième mouvement. Enfin, c'est pas un troisième moment historique, puisque c'est un moment historiquement qui est contemporain du deuxième moment que j'ai signalé, c'est le moment des années 70, le moment de la doxa et du stéréotype. Plus largement, dans le prolongement de la problématique flaubertienne des idées reçues, ce qui traverse la pensée de Roland Barthes, c'est la question de la doxa et du stéréotype. Ce sont les termes qu'utilise le plus souvent Roland Barthes dans les années 70. Le mot stéréotype n'est pas chez Flaubert, parce que le mot stéréotype, il apparaît à la fin du XIXe siècle, et il est surtout utilisé d'abord en psychologie sociale, mais c'est véritablement un mot du XXe siècle, mais pour désigner quelque chose que Flaubert nomme sous le terme de lieu commun, d'idées reçues surtout. Alors, la doxa et l'idée reçue d'abord. La doxa manifeste d'emblée sa puissance chez Roland Barthes par la présence du terme grec non traduit et employé le plus souvent avec une majuscule. La notion renvoie principalement à son emploi chez Aristote sous la forme des endoxa, ces opinions probables qui étayent l'argumentation et qui sont partagées, selon Aristote, par le plus grand nombre, mais qui sont aussi reconnues pour certaines parmi les sages. La pensée aristotélicienne des endoxa est relue par Barthes de façon un peu simplificatrice et unifiée autour de l'assimilation de la notion de probable avec celle de l'opinion générale, de l'opinion publique. C'est surtout que Barthes associe la doxa à la puissance des discours de masse dans notre modernité, à l'opinion au sens statistique du terme tel que la connaît Flaubert. Dans l'ancienne rhétorique texte de 1970, Barthes n'emploie pas alors le mot doxa, mais parle à propos du vraisemblable aristotélicien, d'une logique volontairement dégradée, adaptée au niveau du public, c'est-à-dire du sens commun, de l'opinion courante, et ajoute « elle conviendrait bien aux produits dits de notre culture dite de masse, où règne le vraisemblable aristotélicien, c'est-à-dire ce que le public croit possible ». Dans EZ, l'analyse des codes culturels, qui recouvre un savoir encyclopédique plus vaste que les énoncés proprement endoxaux, vise à démonter les formes d'insertion et d'imposition de l'opinion dans le roman comme une nouvelle lecture des idées reçues. La réflexion s'est déplacée des mythologies vers les stéréotypes, mais on a vu que dans les mythologies, Barthes est déjà très sensible aux stéréotypes. L'éloge de Flaubert dans Aizen intervient en contrepoint de l'analyse des codes culturels dans Sarrazine. Je prendrai un exemple. Dans l'Alexis 174, par une de ses œuvres où le talent à venir lutte contre l'effervescence de la jeunesse, Barthes repère ainsi des stéréotypes relevant du code des âges et de celui de l'art. Le talent comme discipline, la jeunesse comme effervescence. Et les codes culturels nourrissent cette logique de l'anti-même qui fonde les comportements. Résumé de savoir vulgaire, les codes culturels fournissent au syllogisme du récit, nombreux comme on l'a vu, leur prémisse majeure fondée toujours sur une opinion courante. Donc comment se met en place cette analyse de la doxa? L'analyse recherche l'inscription de savoir implicite dans le texte. Le modèle du code culturel semble le code gnomique, qui implique un savoir proverbial sous-jacent à l'énoncé, et Barthes en appelle ainsi à une stylistique transformationnelle qui pourrait mettre chaque code, je cite, « ventre en l'air ». Donc, je passe sur cette analyse, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais vous voyez que de SZ à Bouvard et Pécuchet, Barthes retient de Flaubert une leçon d'écriture et une leçon de lecture, des outils de lecture qui sont des outils, on pourrait dire, d'une généalogie des formes de l'impensé. La lecture idéologique de Barthes évolue des mythologies à la question du stéréotype dans EZ, continuité dans l'analyse grammaticale des euphémismes, mais ou bien, mais aussi continuité dans la nébuleuse des entretiens sur Bouvard et Pécuchet, sur le rôle dans la mise à jour et la renaissance du roman, et qui fait de Flaubert le maître de la lecture et de l'écriture des stéréotypes. Alors, après le SZ, je vois pour ma part une étape majeure dans le Roland Barthes. Et cette étape majeure, ça va être, et je l'annonce là avant de la développer, ça va être le passage de la lecture à la question de l'écriture de la bêtise. Avant d'arriver à cette partie, je voudrais évoquer quelques avatars de la doxa dans le Roland Barthes. Certains fragments du Roland Barthes thématisent la doxa comme un avatar moderne de l'idée reçue comme forme langagière de la bêtise. Comme l'idée reçue ne se définit pas par un contenu spécifique, mais par son mode de circulation, de transmission, à la manière d'une évidence, la doxa, de même, est, dit Barthes, un mauvais objet, aucune définition par le contenu, rien que par la forme, et cette forme mauvaise, c'est sans doute la répétition. La doxa est un mauvais objet parce que c'est une répétition morte. Et Barthes oppose ainsi la mémoire vive du texte, il y a cette grande opposition chez Barthes entre le texte, la littérature et le stéréotype, qui vient de Flaubert, bien évidemment, mais qu'il a amplement développé, et forme et force répétitive, la doxa énonce du déjà-dit, et c'est en cela qu'elle croise le stéréotype. Elle règne comme l'idée reçue, elle est la norme qui s'impose, la doxa, dit Roland Barthes dans le Roland Barthes, la doxa n'est pas triomphaliste, elle se contente de régner, elle diffuse, elle empoisse, c'est une dominance légale naturelle, c'est un AP général épandu avec la bénédiction du pouvoir. La métaphore d'une AP, cohérente avec celle de la consistance, manifeste cette puissance d'enveloppement du discours généralisant de la doxa. Discours enveloppant, universel, les mots se font écho et renvoient à la seule définition en forme que Barthes donne de la doxa dans le Roland Barthes. La doxa, mot qui va revenir souvent, c'est l'opinion publique, l'esprit majoritaire, le consensus petit bourgeois, la voix du naturel, la violence du préjugé. On voit véritablement le fil rouge dans le trajet de Roland Barthes autour de la doxa, de l'idée reçue. Je rappelle cette définition que donne Flaubert de la préface du Dictionnaire des idées reçues dans la lettre du 16 décembre 1852 à Louis Collet. Ce serait la glorification historique de tout ce qu'on approuve, on retrouve le « on ». J'y démontrerai que les majorités ont toujours eu raison, les minorités toujours tort, et c'est véritablement une des problématiques de Roland Barthes comme intellectuel par rapport à la doxa. En même temps, la doxa règne, mais en même temps, la bêtise triomphe, dit Roland Barthes, et la doxa est partie prenante de la bêtise, donc elle est à la fois règne comme quelque chose qui a toujours été et triomphe comme quelque chose d'oppressif. Elle est la figure de Méduse, elle a la figure de Méduse, Françoise l'a rappelé, une Méduse qui pétrifie, mais comme le rappelle Barthes dans un entretien, c'est une Méduse auditive, puisqu'elle passe par l'oreille, par le langage, et Roland Barthes dit qu'elle a la séduction d'une sirène. La bêtise, dit-il dans un entretien, c'est la bêtise, pas la doxa, mais c'est assez proche, la bêtise, dit-il dans un entretien, est une sirène qui vous appelle. « Si je la rejoignais, me dit-elle, je trouverais, point de suspension, le confort, je n'aurais plus peur, je ne serais plus seule dans le trou de la différence. » Et telle est bien la question de fond, celle de la différence. La relation duelle de fascination et de répulsion à l'égard des discours majoritaires rejoint ainsi la question en chacun de sa propre bêtise. La doxa n'est pas toute la bêtise, mais elle engage le sujet, la relation du sujet à la norme du groupe, et la possibilité de même dénoncer. Des mythologies au Roland Barthes par Roland Barthes, ce qui a changé véritablement, l'auteur lui-même le définit, c'est la relation à la bêtise, même si les mythologies ne renvoient pas à un discours antipositiviste. Dans le Roland Barthes, ce qui est explicité, c'est la relation à sa propre bêtise. En un sens, dit le Roland Barthes, tout ce petit livre d'une façon retorse et naïve joue avec la bêtise, non celle des autres, ce serait trop facile, mais celle du sujet qui va écrire. Ce qui vient à l'esprit est d'abord bête, l'idéologie n'est pas donnée ici comme un objet extérieur d'étude ou de dénonciation, mais comme une puissance contaminante, un ver qui ronge toute énonciation. Et dans un entretien avec Jean-Jacques Brochier pour le magazine littéraire de 1975, qui l'interroge sur la place de la bêtise dans son monde et qui lui dit « La bêtise est un peu Dieu pour vous », Barthes lui répond « Espérons pour Dieu que la réciproque n'est pas vraie. J'ai en effet une grande fascination à l'égard de la bêtise et en même temps une grande nausée, bien sûr. Il est très difficile de parler de la bêtise puisque le discours de la bêtise est un discours dont on ne peut pas s'exclure simplement. » Je ne dis pas du tout qu'on ne peut pas s'en exclure, ce serait de la mauvaise foi, mais on ne peut pas s'en exclure simplement. On le sait bien depuis Flaubert, l'attitude de Flaubert à l'égard de la bêtise est très complexe, apparemment critique, mais faussement critique, c'est évident, une attitude de gêne. De toute manière, le mode d'être de la bêtise, c'est le triomphe, on ne peut rien contre elle, on peut seulement l'intérioriser, la manier en soi à dose homéopathique, point trop n'en faut tout de même. Alors on en vient à ce dernier temps de mon exposé qui est la question de l'écriture de la bêtise. À partir du Roland Barthes, 1975, précédé du séminaire qui en explore les conditions de possibilité, le lexique de l'auteur, qui est un séminaire qu'il a tenu en 1973-1974, puis des fragments d'un discours amoureux, 1977, et de son séminaire que Claude Coste a publié, la question se pose de plus en plus comme l'énonciation de sa propre bêtise, et c'est en cela que s'infléchit un mouvement spécifiquement barthésien dans les derniers textes de Roland Barthes. Depuis quelques années, dit Roland Barthes, dans un entretien de tel quel, de l'hiver 79, un projet unique semble-t-il explorer ma propre bêtise, ou mieux encore, la dire, en faire l'objet de mes livres. J'ai un projet unique, voilà. J'ai de la sorte dit la bêtise égotiste et la bêtise amoureuse. Reste une troisième bêtise qu'il faudra bien dire un jour, la bêtise politique. Ce que je pense politiquement des événements, et je ne cesse d'en penser quelque chose au jour le jour, est bête. C'est cette bêtise qu'il faudrait maintenant énoncer dans le troisième livre de cette petite trilogie, une sorte de journal politique. Et là, c'est vraiment essentiel pour Roland Barthes, parce qu'on peut dire qu'il a toujours été dans cet entre-deux à propos du discours politique. Et pour la question de la Chine, des carnets du voyage en Chine, c'est tout à fait explicite. On lui a reproché, dans les carnets du voyage en Chine, il dit assez clairement dans ses carnets ce qu'il pense, enfin ce qu'il... Mais en même temps, à la publication de ces carnets, on l'a reproché assez naïvement à Roland Barthes d'être de ne pas s'être engagé contre le maoïsme de l'époque. Et c'était déjà un certain courage que d'être à la fois ni, c'est-à-dire d'être à la fois ni complètement maoïste comme les solersiens, ni contre. La Chine de l'époque, et ça lui a été reproché très très vivement quand il a publié Alors la Chine, et cette question du discours politique, de l'engagement et de dire ce qu'il pense, c'est véritablement et de la bêtise de ce qu'on peut dire, d'assumer la bêtise de ce qu'on peut dire, c'est un vrai sujet, me semble-t-il, pour Roland Barthes. Alors je m'arrête là. Il y a pas pour l'exposer, j'en ai presque fini, mais je continue encore un tout petit peu sur cette question des cantons de sa propre bêtise. Bête, dit-il, vu classique, la bêtise serait une hystérie. Il suffirait de se voir bête pour l'être moins. Vu dialectique, j'accepte de me pluraliser, de laisser vivre en moi des cantons de bêtise. Et pour cela, le Roland Barthes par Roland Barthes, met en place tout un dispositif d'esquive, de déport, comme dit Roland Barthes, reposant sur l'étagement des significations, ou la batmologie, les guillemets, sur un dispositif d'énonciation fictionnelle, tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman, ou plutôt par plusieurs. Sur la composition alphabétique aussi, masquée et brisée des fragments, jouant de la pluralité des genres. Donc il y a tout un dispositif de protection dans le Roland Barthes qui vise à déplacer le sujet d'énonciation et à permettre un dispositif qui rende possible l'énonciation de la bêtise. Et le séminaire, le lexique de l'auteur qui précède le Roland Barthes, permet de se rendre compte de toute la réflexion éthique et formelle, réflexion sur l'infatuation, sur la forme du dictionnaire, qui prélude à la composition du Roland Barthes. Il y a donc un jeu romanesque avec l'identité, avec l'assertion, forme suprême de la bêtise pour Roland Barthes. Ce que j'écris de moi n'en est jamais le dernier mot, dit-il. C'est ce qu'on a pu appeler le romanesque, et c'est ce qu'il appelle lui-même le romanesque de l'intellect. C'est un discours romanesque, dit-il, plus qu'un discours intellectuel, et c'est pourquoi il accepte parfois d'être un peu bête. Dans la mesure où ce n'est pas le sujet intellectuel qui s'identifie avec ce qu'il énonce, mais un autre sujet, un sujet romanesque, qui accepte donc de lâcher parfois des idées ou des jugements, que le premier sujet trouve un peu bête, mais qu'il lâche tout de même, parce que cela fait partie de son imaginaire, et sans le dire. Marielle Massé a écrit un excellent article sur Barthes romanesque, dans un très bon volume d'ailleurs, qui s'intitule Barthes au lieu du roman, sur le romanesque barthésien. Et elle montre que le romanesque est en particulier pensé par Barthes comme une voie de l'innocence de l'imaginaire et aussi du pathos amoureux. On va le retrouver. Dans le Roland Barthes, le romanesque est lié au dispositif polyphonique de l'énonciation, dans une perspective très flaubertienne. Le Roland Barthes use de l'écriture indirecte de la littérature, définie depuis la préface aux Essais critiques de 1964 comme la seule réponse à la question du stéréotype. Le problème de l'écrivain, y explique-t-il, n'est pas celui de la page blanche, mais bien celui des clichés et du stéréotype. Et il développe tout cela dans la leçon comme la force, la littérature comme force de résistance au stéréotype. Donc, du stéréotype, Barthes s'en distingue par les moyens mis en œuvre dans son écriture, par le refus, par la recherche d'autres formes que le roman, d'autres formes du romanesque que le roman dans son écriture, la recherche d'une écriture comme pensée-mot, qui inclut des objets concrets dans le langage et requalifie la métaphore dans la pensée critique. Je vous renvoie par exemple au fragment « Passage des objets concrets dans le discours » du Roland Barthes que je n'ai pas le temps de lire. Et aussi, donc, d'une part, par cette recherche de la pensée mot, mais aussi par une autre voie du romanesque, hors du stéréotype, qui est la voie du neutre, de la suspension du sens, qui est la voie du fragment, de la ténuité du détail, du haïku, celui des anamnèses du Roland Barthes, celui de l'incident, une sorte de phénoménologie du quotidien. Donc, la problématique du Roland Barthes, c'est celle de la polyphonie, qui est une problématique flaubertienne. Il y aura d'autres voies de l'écriture de l'indirect, je viens d'en donner deux. Mais il y a une troisième voie qui est en fait celle du discours amoureux, me semble-t-il, enfin celle de la problématique du discours amoureux. Qui est une autre réponse à une question de Flaubert, qui n'est pas seulement la question de la bêtise et de l'intelligence, qui est la question que Flaubert pose en 1867 à George Sand. Quelle forme faut-il prendre pour exprimer parfois son opinion sur les choses de ce monde, sans risquer de passer plus tard pour un imbécile? Cela est un rude problème, dit-il. Il me semble que le mieux est de les peindre tout bonnement, ces choses qui vous exaspèrent. Disséquer est une vengeance. Si on rétablit le contexte de cette citation, qui peut valoir comme une sorte d'aphorisme hors contexte, on s'aperçoit que cela vise l'écriture de l'éducation sentimentale. Flaubert a répondu par l'écriture de l'éducation sentimentale à cette question, mais cette question se posait en fait à la suite d'une diatribe que Flaubert portait directement contre Thiers. et qui est assez violente. Il disait, peut-on voir un plus triomphant imbécile, un croutard plus abject, un plus étroniforme bourgeois? Rien ne peut donner l'idée du vomissement que m'inspire ce vieux melon diplomatique arrondissant sa bêtise sur le fumier de la bourgeoisie. Est-il possible de traiter avec un sans-façon plus naïf et plus inepte la philosophie, la religion, les peuples, la liberté, le passé et l'avenir, etc. Il me semble éternel comme la médiocrité, il m'écrase. Donc vous voyez, le modèle du crétin, on retrouve Thomson. Et il me semble que la problématique de Roland Barthes, elle est bien celle de Flaubert, mais il la déplace vers une problématique beaucoup plus égotiste et aussi une problématique de l'essai et de la du journal et une réponse qui est en tout cas pas la réponse flaubertienne par l'impersonnalité de la prose du roman. Hein, Flaubert n'a jamais écrit d'essai. L'interrogation de Barthes est plus égotiste et immédiate, c'est comment faire entendre sa différence dans la parole ordinaire, dans l'écriture personnelle. La réponse du Roland Barthes, on l'a vu, c'est la non-coïncidence à l'énoncé par le biais d'une écriture indirecte. Le séminaire du discours amoureux va vers l'acceptation d'une part de bêtise au premier degré. J'ai pas le temps de citer un beau passage du discours amoureux, page 357-358. Enfin, je cite quand même cet élément. Il dit dans le séminaire, notre discours doit assumer une certaine bêtise, ou plutôt il doit accepter de rester muet sur l'éventualité de sa propre bêtise. Qu'est-ce que la bêtise? Un arrêt, une butée, un figement inopportun. Un jour, un ami se mit à lire des fiches disposées sur ma table en vue d'un travail que j'avais à faire. J'ai eu un vif sentiment de honte, comme si ces fiches ainsi surprises ne pouvaient être que bêtes. En fait, elles étaient bêtes parce que surprises, arrêtées, figées prématurément. Être bête, c'est être surpris à son corps défendant. Et on retrouvera cela dans le discours amoureux. Je m'entête, refuse l'apprentissage, répète les mêmes conduites. On ne peut m'éduquer, je parle toujours au premier degré, dit l'amoureux. La bêtise, c'est d'être surpris. L'amoureux l'est sans cesse. Il n'a pas le temps de transformer, de retourner, de protéger. Peut-être connaît-il sa bêtise, mais il ne la censure pas. Ou encore, sa bêtise agit comme un clivage, une perversion. C'est bête, dit-il, et pourtant, c'est vrai. Alors, il en arrive... Donc, j'en arrive, moi, à ma conclusion. Et Barthes en arrive à cette idée... d'une déprise hors du discours social à la fin de ces années 70, du moins dans l'écriture, vers une phénoménologie de l'immédiat ou du souvenir, mais une fascination aussi pour les arts du silence, les arts du sensible comme la peinture ou la photographie. Et là, je renvoie à la présentation de Marielle Massé et Alexandre Geffen au volume Barthes au lieu du roman. Dans les notes pour son ultime projet littéraire, Vita Nova, Roland Barthes écrit « Renoncer au jeu sur la bêtise, les guillemets, le refus de prendre position sur l'énonciation, alibi du romanesque, de la diversité de mon moi, sans complaisance, pas de semblant, c'est souligné. Il est donc alors, me semble-t-il, au-delà des idées reçues, de l'opinion et de la question du jugement. Un tel renoncement se produit aussi au moment de la Chambre claire, de 1980, écrit après la mort de sa mère, devant ce particulier absolu qu'est la photographie et la photographie de sa mère. Dans ce livre où s'atténue la tension à l'égard du stéréotype, la doxa revient devant la force d'évidence de la photographie comme une croyance qu'on ne peut défaire. Je cite, c'est précisément dans cet arrêt de l'interprétation qu'est la certitude de la photo. Je m'épuise à constater que ça a été. Pour quiconque tient une photo dans la main, c'est là une croyance fondamentale, une our doxa que rien ne peut défaire, sauf si l'on me prouve que cette image n'est pas une photographie. Et je termine par une citation de Roland Barthes, qui est une citation de l'intervention de Roland Barthes dont Françoise se souvient peut-être, puisque c'est une intervention au colloque de Cerisy de 1976, je crois, 77. Alors, la bêtise n'est pas liée à l'erreur, dit Roland Barthes, toujours triomphante, impossible à vaincre. Son triomphe relève d'une force énigmatique. Ces lettres-là, tout nues, dans sa splendeur, d'où une terreur et une fascination, celle du cadavre. Cadavre de quoi ? Peut-être de la vérité comme morte. La bêtise ne souffre pas. Bouvard et Pécuchet, plus intelligents, ils souffrirent davantage. Donc elle est là, obtuse comme la mort. La conjuration ne peut être qu'une opération formelle qui la prend en bloc de l'extérieur. La bêtise n'est pas mon fort, monsieur Test. On aurait pu effectivement rappeler Valérie. Ce mot suffit dans un premier temps. Mais il y a un échelonnement infini des propos. Ça redevient bête. Cette mécanique des temps, comme on parle des temps d'un moteur en matière de langage, est importante. Voyez les systèmes forts, marxisme, psychanalyse. Dans un premier temps, ils ont une fonction efficace de contre-bêtise. Passer par eux, c'est se déniaiser. Mais dans un second temps, ces systèmes deviennent bêtes. Dès que ça prend, il y a bêtise. C'est là que c'est incontournable. On a envie d'aller ailleurs. Ciao, serviteur. J'ai fini. Voilà, la discussion est ouverte. Si vous avez encore un peu de force, après. Pierre-Marc de Biasi.
Oui, je me demande si dans l'exposé que je vous propose, il n'y aurait pas à ajouter encore une couche d'analyse sur la. L'usage historique fait de la notion de doxa dans les années 60. Là, la notion de doxa est loin d'être inventée, l'usage par Barthes.
Bien sûr, par définition, la doxa.
Oui, mais j'ai le mot
utilisé
dans les années 60 de façon très forte dans le milieu de l'enseignement de la philosophie, des interférences entre les sciences de l'homme et puis la littérature. Et ça serait intéressant de voir ce qu'il y a de bête, en tout cas de doxique dans l'usage du mot doxa. Et peut-être que c'est une. Il y a peut-être des poissons, des gros poissons à pêcher du côté de cette.
Ah oui, c'est assez intéressant. Voilà,
j'ai l'impression.
Et tu penses à des auteurs particuliers ou en philosophie?
Je me semble bien, Françoise pourrait peut-être répondre à la question, mais il y a presque une inflation de ce terme, aussi bien chez les phénoménologues que chez la plupart des.
Oui. Mais c'est pas étonnant de la part de Barthes parce qu'il est comme une sensitive à l'égard des discours à la mode et en même temps à chaque fois il s'approprie, il en fait quelque chose de bien à lui. Hein. Il me semble que là ça mais c'est tout à fait bien sûr il faut.
Mais c'est là qu'il s'est permis énormément chez Barthes, même le sens de tout ça. Il l'a bien montré. C'est plus ou moins c'est un concept qui. Dans certains cas, va devenir très large et donc avoir une ampleur encore assez faible. Et puis dans d'autres cas, au contraire, il essaie d'en faire une définition plus précise. Quelquefois, ça se rapporte de la croyance, tout simplement. Ainsi, c'est pas mal de
l'opinion générale. Mais il l'assume tout à fait dans le Roland Barthes. C'est d'ailleurs assez étonnant ce livre parce que c'est un livre encore terriblement intelligent parce que on a l'impression qu'il a tout il essaie de tout prévoir, c'est-à-dire ce qu'il dit et la réaction qu'il. Et pour la doxa, il dit qu'il ne le définit pas et en même temps que c'est un de ses grands mots qu'il rebaptise lui-même. Et c'est sûr que c'est un mot flou, un de ces mots mana comme il aussi donc, qui lui sert comme le dit François de joker. Hein.
La doxa telle qu'elle s'utilise comme notion dans les années 50-60, ce qu'il va repérer, c'est les couples de position qui sont mis en place. La plupart du temps, c'est théorie. L'autre de doxa, c'est théorie. L'autre de Doxa, c'est science.
Ou paradoxa, dit Barthes.
Là, je pense qu'il y a une enquête vraiment.
Ah oui, l'autre, oui, tu as tout à fait. Non, tu as tout à fait raison. Françoise Gaillard.
Oui, évidemment, je souscris à tout ce que tu as dit, qui rend très bien compte du regard porté par Barthes sur la bêtise et de son évolution. Simplement, parce que tu as insisté sur la question politique à la fin, je voudrais juste rappeler une chose, et c'est pour ça que je suis en train de préparer un petit article, ça va peut-être assez élogieux que ça, sur la nouvelle publication des mythologies. En fait, bon, on est bien d'accord, et tout ce qu'on dit, vous l'avez aussi. Donc que la bêtise, ce n'est pas l'erreur, donc elle ne s'oppose pas, la doxa ne s'oppose pas à la vérité. Bien. Maintenant, dans le fonctionnement de la doxa, l'opinion, les idées reçues, etc., Roland Barthes souligne deux choses. Premièrement, l'image de Méduse lui sert à cela, à savoir que, à l'origine, ça a pu être une beauté.
Oui, je l'ai pas cité parce que j'avais pas le temps. Mais
donc, il y a
beauté endormie, dit-il.
C'est démonétisé. Bon, c'est une réflexion assez banale, finalement. Enfin, la démonétisation d'une chose qui a pu apparaître comme novatrice, issue d'une véritable réflexion. Mais si on regarde la mythologie, il y a une autre dimension. En fait, ce qui nous montre dans le fonctionnement de ce qui peut apparaître la bêtise, c'est l'occultation de ce qu'il y a de fondamentalement historique, de ce qu'il y a de fondamentalement historique dans un propos. Et cette scotomisation ou cette occultation aboutit à une naturalisation. À partir du moment où il y a naturalisation, le propos se présente comme une évidence.
Oui, bien sûr.
Et je crois que je maintiens que ça sera une constante jusque dans le dernier bar. C'est-à-dire que ce qui l'irrite le plus, c'est la naturalisation. C'est-à-dire finalement l'oubli, soit véritablement de l'histoire, soit de quelque chose qui peut être la généalogie, au sens Nietzschean du terme, et que l'on ne peut comprendre les choses qu'en les rapportant à la généalogie. Alors je crois que là, la bêtise acquiert une dimension que l'on ne trouverait pas chez Flaubert. Cette idée, finalement, qu'il faut comprendre qu'elle procède justement d'un effacement de ce qui est sa généalogie.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis passé rapidement là-dessus parce que moi, il me semble que j'avais plusieurs aspects que je voulais développer, mais cette notion de l'évidence qu'on trouve dans les mythologies, dans EZ, c'est vraiment des temps forts, qui, tu as tout à fait raison de le souligner. Pour moi, ça procède de la problématique flaubertienne de l'idée reçue. L'idée reçue se présente comme une évidence, comme une nature, comme...
Mais Flaubert ne dit jamais que c'est par oubli de son historicité.
Mais... Et en tout cas, le dictionnaire des idées reçues, si tu veux, il le montre, c'est par définition. Et ce qui est très intéressant, parce que moi j'ai annoté le dictionnaire des idées reçues, et je me suis rendu compte à quel point chaque énoncé qui paraissait comme un aphorisme avait une historicité, soit parce que c'était une citation historique, soit parce que ça visait une découverte, ça avait un ancrage dans la correspondance de Flaubert, dans sa vie à lui. Donc il y a cette dimension historique, il en est pleinement conscient, même s'il n'a pas écrit de traité. La différence, c'est que Barthes est un essayiste et Flaubert ne l'est pas. Flaubert est un romancier.
C'est... Là où les essayistes et la pensée dossier de fondation de
Hochstein, oui.
Là, ça paraît de façon très violente. Oui. L'anachronisme est un des modèles d'émergence de la bêtise qui va chercher chez ses propres copains ou chez Mika. Et au fond, le découplage entre le pensée qui se naturalise par. cette logique non plus. Dans l'exemple qu'il nous a donné sur le petit bourgeois, là c'est pareil, c'est vraiment un vocabulaire d'époque, c'est un vocabulaire complètement, enfin d'une certaine façon, complètement anachronique pour parler de Flaubert,
oui, oui.
Qui est totalement lié à l'impact à l'ombre portée par le communisme français sur la pensée des années 50. Et ça a duré jusqu'à 68. Quoi. En gros, dans cette période où la notion de petit bourgeois, elle a la massivité quand même de la bêtise.
Bien sûr. Mais ça, effectivement, c'est un élément qui est un peu qui est parmi les plus datés dans la pensée de Barthes sur Flaubert, le côté petit bourgeois. Mais en même temps, c'est une lecture qui apparaît peut-être évidente aujourd'hui. La caricature du petit bourgeois, peut-être que c'était quelque chose qui était moins. Oh, c'est sûr que c'est daté. C'est pas pour défendre Roland Barthes, mais c'est sûr que c'est assez daté dans ça. Mais c'est tout à fait intéressant cette idée de resituer la pensée dans l'époque, enfin dans l'ère des années 50-60. Ça demande pas mal de lecture, de travail, mais c'est tout à fait intéressant. Mais moi, quand j'ai travaillé sur Bouvard et Pécuchet, sur le dictionnaire d'idées reçues, c'est vraiment la lecture qu'on a faite, Roland Barthes, qui m'a donné au départ des outils d'analyse. Et cette généalogie, j'ai employé le terme tout à l'heure à dessein, il y a vraiment. Il est dans la perspective nietzschéenne d'interroger la grammaire, en fait, d'interroger notre grammaire. Et ça, c'est ce qui est la lecture de SZ. Enfin, Claude Coste est en train de préparer le séminaire qui a précédé SZ. Pierre-Marc de Biasi.
Comme tu es très centré sur moi avec le chef, tu as tendance à nous donner une lecture de Barthes qui fait évoluer Barthes de plus en plus vers le bas du chef. C'est vrai en partie, mais il y a quand même, on se rapporte à Flaubert.
Non, mon sujet c'était Barthes, la bêtise et Flaubert. Donc j'ai laissé de côté tout le travail. Je l'ai cité en introduction, mais j'ai laissé de côté tout le travail sur Flaubert et la phrase, le Flaubert artisan de l'écriture, mais qui rejoint.
Mais je voulais dire que même à l'époque, fragment amoureux,
oui.
C'est la fin de Deborah Paul qui fait penser sur. La lecture de l'éducation sentimentale à travers le travail de Barthes sur l'attente amoureuse, sur les.
Oui.
Il y a en fait une ouverture à l'ensemble du corpus qui reste très forte.
Oui, oui.
Et la bêtise amoureuse, elle est finalement beaucoup plus liée à d'autres éléments de corpus.
Oui, tu as raison. Mais je suis passée plus vite parce que c'était. En fait, je me suis plus centrée sur la question de l'énonciation, d'écrire, comment écrire, etc. Et donc, à partir de là, j'ai pas fait référence aux œuvres, mais c'est sûr que le. Mais indépendamment de mon amour personnel, ma dilection personnelle pour Bouvard et Pécuchet, que je ne cache pas. Il m'a vraiment semblé que c'est une présence, c'est une espèce de présence massive dans la pensée de Roland Barthes. Même s'il est un lecteur, après Bouvard et Pécuchet, ou avec Bouvard et Pécuchet, il est un lecteur de la correspondance. Ça, c'est vraiment un lieu pour lui. Et puis, du reste des textes, ça, peut-être Claude Coste sera plus. Oui.
Ils organisent leur jardin, leur propriété en Normandie, ils sont décidés, ils sont entreprenants. Il y a tout un éloge. Il y a un peu ironique, bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de temps de raison.
Non, mais je disais pour les autres textes.
Oui,
les.
Mais ça correspond.
Oui.
La bêtise de Bouvard et Pécuchet, c'est aussi celle de Flaubert et celle de Barthes. Enfin, la séparation a pu être. Et la critique de la bêtise bourgeoise, c'est très ancien dans la culture française, mais elle venait d'un point.
que le prêtre ou l'intellectuel prend un peu la relève de l'aristocrate face au bourgeois, et il y a ce prolongement par Flaubert et jusqu'à Barthes. Il y a un danger, me semble-t-il, qui est le danger de l'aristocratisme, qui a guetté tous les intellectuels français, hein, et sans prendre à la doxa, sans prendre à la bêtise, c'est aussi risquer de construire son infatuation soi-même, hein, aristocratique. Et Barthes en a tout à fait conscience. Il me semble qu'il y a un autre mouvement dans son œuvre qui est de faire l'éloge du lieu commun, précisément, pour ramener l'intellectuel, l'aristocrate, dans le troupeau. Je suis troupeau, hein, comme on voit chez Valéry Larbaud.
Mais on n'y croit pas trop quand même.
Comment ?
On n'y croit pas trop quand même.
Mais quand même, il y a une phrase qui, de Kafka qui revient chez Barthes, et surtout à la fin, c'est dans ton combat avec le monde, seconde le monde. Hein, c'est l'exergue qui est dans l'article que Barthes consacre au livre de Marc Robert, et cela est longuement développé dans la préparation du roman. Il y a un moment où il faut quand même être dans le lieu commun. Il y a un éloge aussi du lieu commun, je ne sais pas. Attention, il ne faut pas qu'il y ait trop de bêtises.
C'est ce qu'il dit, pas trop. Hein.
Comment ?
Un peu, mais pas trop.
Un peu, mais pas trop. Mais en même temps, on est du troupeau. Quand on va avec le monde, seconde le monde. Et là, on est dans l'anti-aristocratisme. Je crois que les deux équilibrent. Donc, c'est une bonne doxa aussi. Vous imaginez une bonne doxa. Pas facile.
D'en dire un mot sur le passage des objets concrets dans le discours. Je reviens.
Alors, passage des objets concrets dans le discours, je peux peut-être citer pardon, je retrouve mon. C'est un fragment du Roland Barthes. Je vais y retrouver. Différent du concept et de la notion qui sont eux purement idéels, l'objet intellectuel se crée par une sorte de pesée sur le signifiant. Il me suffit de prendre au sérieux une forme, étymologie, dérivation, métaphore, pour me créer à moi-même une sorte de pensée-mot qui va courir tel l'anneau du furet dans mon langage. On en a une sorte d'illustration mimétique avec la comparaison de l'anneau du furet. Ce mot-objet est à la fois investi, désiré, est superficiel, on en use, on ne l'approfondit pas, il a une existence rituelle. On dirait qu'à un certain moment, je l'ai baptisé de mon signe. Alors, c'est assez obscur, dit comme cela. Je l'ai mieux compris à travers le séminaire du lexique de l'auteur, où il développe cette notion de pensée-mot. C'est l'idée que l'écriture de l'écrivain, c'est pas comme. Enfin, il oppose l'écriture de l'écrivain à l'écriture du philosophe, qui est une écriture purement conceptuelle. L'écriture de l'écrivain inclut ce qu'il appelle les objets concrets. Les objets concrets, ça vient des figures comme la métaphore, la comparaison, le jeu étymologique. En fait, c'est une définition générale de quelque chose qui est sa propre écriture. Et il donne l'exemple de Chateaubriand dans La vie de Rancée. C'est un peu bizarre, mais ça correspond assez bien à sa pratique de l'écriture et de la métaphore. Et là, c'est tout à fait non flaubertien, parce que on connaît la façon dont Flaubert pourchasse les métaphores dans l'écriture romanesque. Mais Barthes, pour qui lit Barthes, il sait que son écriture est une écriture où affleurent volontiers les comparaisons. Et là, on a la comparaison du furet. Dans le Roland Barthes, il y a le furet, la métaphore de la main chaude pour désigner les tâchements. Et c'est une. Et passage des objets concrets dans le discours, oui, c'est assez. Ce qui est objet concret, il me semble que c'est ça. Ce sont ce qu'on appelle traditionnellement les images. Là, il évoque le jeu sur l'étymologie, les métaphores, mais aussi la comparaison. Voilà, je crois que c'est ça.
C'est une façon de voir le poisson, qui est le plus gros poisson, qui est la médiation entre
les choses. Oui, mais aussi la pensée mot, c'est-à-dire cette manière qu'il a de rebaptiser des concepts du langage commun en se les appropriant et en leur redonnant une signification à lui. Voilà. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein. Je ne sais pas si c'est juste. Oui.
Hegel disait que pour agir sur les hommes, il faut les prendre comme ils sont. Il ne faut pas de l'extérieur venir agir sur eux. La pensée ne devient bêtise. La pensée réellement veut penser le monde, bien sûr, l'activité dans le monde. Et s'arrache à la bêtise que si elle est un moment constitutif, leur mise en acte d'une liberté, d'une crise du monde, d'une volonté de transformation de la réalité. La réification de la pensée, c'est lorsqu'elle se sépare de ce projet d'agir du monde, dans le monde, et là, je pense que je vais préciser, pour se poser comme une espèce de répétition en elle-même, réflexive, sans réflexivité, réfléchissant sans réflexivité. C'est le processus vraiment de la réification des idées qui sont portées par des âmes sans vie, par des pensées non pensantes, par une espèce de doxa, de seul. Sans vie. Bon, effectivement, je pense que on peut toujours considérer que la pensée réifiée devient idéologie, pensée morte, dès l'instant où elle se sépare de la naissance du projet qu'elle avait porté, c'est-à-dire de réalisation, par exemple, de la liberté ou de la poésie dans le monde, etc. Parce que, moi, je voudrais revenir à Barthes, parce que je trouve que c'est un de Barthes qui m'a un peu frappé, qui m'a rendu aussi à Barthes. C'est d'abord un goût réifié. L'idée que la langue était fasciste. Et que dans ce propos, on oublie qu'il y a un usage fasciste de la langue et qu'il y avait aussi un usage libérateur de la langue, aussi bien de la poésie que celui qui apporte le concept de la réalité, qui à la fois donne la vérité de notre temps, donne la vérité d'un temps, d'un moment dans lequel on est inséré, et effectivement s'en extraire et donc effectivement. Par le fait que la critique de la bêtise doit être signe qu'elle émane en intérieur, se ignore elle-même. Donc la première question, effectivement, c'est que la langue est-elle fasciste? Parce que moi, je n'ai pas. Il y a un usage fasciste de la langue. La deuxième question, c'est que dans la bêtise, il y a aussi une bêtise muette. La bêtise qui consiste en la répétition de gestes qui sont non conscients, non pensés d'eux-mêmes. Et qui articule une espèce d'orbite inexistante d'une vie qui souvent se fait répétition d'elle-même sans être consciente qu'à l'intérieur de ces processus de répétition, que ce soit dans le travail, dans le réveil, dans l'éveil, dans la vie quotidienne, dans le travail, dans la cuisine, aller au théâtre, aller au spectacle, etc., aller en vacances, il y a toute une structure qui n'est pas mise en conséquence. C'est justement été mise précisément en critique par la fois Henri Lefebvre et les situations étant dire les quotidiennes. Alors, dans quelle mesure, effectivement, est-ce que la bêtise qui est inscrite dans des actes de la vie quotidienne qui sont non dits, non pensés, dans quelle mesure est-ce que cette structure spatio-temporelle de la répétition est-elle pensée par Lombard comme étant une figure de la bêtise, puis une configure, une conformisme qui n'est pas structurée par un discours idéologique, etc. Oui.
Bon. Je vous remercie de votre question.
Je voudrais intervenir juste sur un point. C'est vrai que c'est une phrase qui peut être maladroite.
Il faut qu'on.
Pas du tout qu'on emploie l'adjectif fasciste à toutes les semaines. Et ça a été beaucoup reproché à la langue. Mais il faut d'abord citer la phrase en entier. Elle dit la langue est fasciste, non parce qu'elle oblige à dire, mais parce qu'elle interdit de dire. Bon, ce correctif est important, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il disait? Il disait une chose que, malheureusement, pour lui, je peux dire d'une assez grande banalité. Je veux dire qu'on ne peut finalement penser qu'à travers les structures de la langue qui est la nôtre. C'est-à-dire que la langue est structurante. Et elle est structurante, on le sait bien. On sait bien que dans des cultures différentes des nôtres, des langues complètement différentes, eh bien, il y a des visions du monde qui s'imposent parce qu'il y a une structuration. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que c'était cela qu'il visait. Et rien de plus.
Bon. On va terminer le séminaire sur cette parole. Et je vous remercie. Je vous donne rendez-vous alors au mois de janvier, en vous souhaitant une bonne fin d'année. Exposé de Pierre-Marc de Biasi, Enquête de la bêtise, et Jacques Neff, Stupeur et bêtise. Rendez-vous le samedi 15 janvier, donc l'année prochaine. Et bonne fin d'année à tous.